Parler du nucléaire n'est pas chose facile. La discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures? Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponche peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, je me trouve dans les locaux de l'Institut Négawatt avec Yves Marignac. Bonjour Yves.
Bonjour.
Bah, déjà pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'Institut Négawatt ?
Alors oui, bienvenue d'abord dans ces locaux qui ont une longue histoire. L'Institut Négawatt, c'est la filiale créée en 2009 de l'association Négawatt, qui elle a été créée en 2001. L'association regroupe des experts qui travaillent sur des scénarios de transition énergétique. On en a publié 5 au total, qui proposent par une approche de sobriété, d'efficacité et de déploiement des renouvelables un chemin soutenable vers la neutralité carbone et le 100% renouvelable. Et l'association donc s'est dotée dès 2009 d'une filiale, l'Institut, qui développe plutôt des activités de prestation, de formation professionnelle, d'accompagnement d'acteurs, d'études. Et dans ce cadre, moi j'ai une triple casquette historiquement. Je suis membre de la compagnie des Négawatt, qui est un peu l'organe stratégique de bénévoles de l'association. J'y suis rentré en 2006. Je suis salarié de l'association comme porte-parole et référent méthodologique sur nos travaux prospectifs, nos scénarios. Et je porte au sein de l'Institut, donc en partageant mon temps salarié, une expertise plus spécifique sur les sujets nucléaires qui, évidemment, puisqu'on est en France, sont à peu près incontournables dès qu'on parle de transformation de notre système.
Est-ce que tu peux essayer rapidement de me présenter justement cette philosophie des scénarios que tu as présenté entre la sobriété, l'efficacité et les renouvelables? Et pourquoi dans cet ordre-là d'ailleurs?
Depuis son origine, en fait, l'association Négawatt travaille autour de cette démarche, ce triptyque sobriété, efficacité, renouvelable, avec en fait comme point de départ l'idée que notre système énergétique n'est pas soutenable parce que l'urgence climatique, parce que les atteintes à la biodiversité, mais aussi parce que des inégalités croissantes liées aux accès à l'énergie ou aux ressources, hein, que l'on parle à la fois de problèmes de justice sociale dans notre pays avec la précarité énergétique ou à l'échelle internationale, hein, avec les problèmes de développement du Sud. Et donc l'idée que ce système énergétique non soutenable structure la société et que pour retrouver de la soutenabilité, il faut transformer profondément la société autour à partir d'une démarche qui, en fait, cherche à aller à la racine des choses. Et la racine des choses, c'est la façon dont on consomme surconsomme, d'où l'idée que l'approche pour repenser notre système énergétique part du questionnement des services énergétiques, des services que nous rend l'énergie. Et c'est ça qu'on appelle la sobriété. C'est pas du tout, ça n'a jamais été pour nous une notion de contrainte, de restriction. C'est au contraire une notion positive d'intelligence individuelle et collective dans les usages que l'on fait de l'énergie et des ressources. Et cette sobriété, c'est le premier étage de la fusée. Avant, en remontant des services énergétiques vers les ressources que l'on prélève dans l'environnement pour après tout un tas de transformations répondre à ses besoins, eh bien, en remontant la chaîne, chasser tous les mauvais rendements, donc améliorer techniquement l'ensemble des processus, ça c'est ce qu'on appelle plus classiquement l'efficacité énergétique, Et notre, enfin ce que voilà, ce qu'on affirme vraiment très fort avec cette démarche, c'est que à l'heure où la question des limites planétaires vient en fait contraindre l'humanité à sortir de la logique d'addition de ressources qui a toujours été la sienne. On n'a pas arrêté le bois énergie lorsqu'on a fait du charbon, et on n'a pas arrêté le charbon lorsque on a accédé au pétrole. Et bien aujourd'hui, on est dans une logique où il faut non plus accumuler, mais substituer. Il faut sortir des énergies fossiles. Il faut, on y reviendra probablement, sortir aussi du nucléaire qui, de notre point de vue, est intrinsèquement moins soutenable que les énergies renouvelables. Et cette substitution, que l'on y inclut le nucléaire ou pas d'ailleurs, ne change pas grand-chose à l'affaire, puisque le gros du paquet, c'est les énergies fossiles. Cette substitution n'est possible que si on commence par maîtriser le volume de ressources dont on a besoin, donc par mettre en œuvre la sobriété et l'efficacité. Et donc voilà, l'association Negawatt, depuis l'origine, a travaillé sur cette approche et... À mesure qu'on développait des scénarios, qu'on allait de plus en plus dans la profondeur des transformations nécessaires, etc., et bien on a embarqué en fait tout un tas de sujets qui relèvent de la soutenabilité au sens large. Pas seulement le changement de nos modes de production d'énergie et de nos modes de consommation et la question climatique, mais l'ensemble des enjeux liés à notre empreinte environnementale, les transformations de l'économie qui sont nécessaires pour permettre cette évolution, et puis toutes les questions de justice sociale, d'inégalité, de pauvreté, de solidarité internationale et de gouvernance, évidemment. On a, avec notre dernier scénario en date publié en octobre 2021, assumé peut-être vraiment de façon plus affirmée que précédemment, l'idée que ce scénario, ça n'est pas une trajectoire technique, c'est un projet de société, c'est un projet de transformation autour, centré sur des valeurs humanistes, d'une manière générale. Et on a choisi pour, d'un point de vue méthodologique, poser vraiment fortement ses bases, de s'appuyer sur... les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015, en disant que voilà, un scénario de transition énergétique doit être un scénario qui cherche à améliorer la situation vis-à-vis de l'ensemble de ces objectifs, donc les questions environnementales, économiques, sociales et de gouvernance, qui sont pour nous absolument indissociables.
Je voudrais juste revenir sur cette idée de service énergétique, parce que c'est peut-être pas forcément une notion très connue. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est à tous les moments de notre vie où on utilise de l'énergie, on va réfléchir à quelle énergie on utilise, comment on peut l'utiliser, moins la gaspiller. Enfin, c'est ça que ça veut dire, un service énergétique ?
C'est exactement ça. Et le scénario et les propositions de Negawatt regorgent d'idées concrètes sur la manière de le faire. Mais vraiment, il faut... La philosophie derrière, c'est un changement de paradigme où on sort de représentations qui ont été ancrées par des décennies de culture productiviste, etc., où quand on pense énergie, on pense ressources énergétiques et l'enjeu, c'est de mobiliser des ressources. Ben non, en fait, la raison d'être de ce système énergétique, c'est de fournir des services. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et ces services, c'est effectivement cuire des aliments, se chauffer, se déplacer avec un véhicule, faire fonctionner l'ensemble de nos appareils électroménagers, de nos outils de communication et les machines industrielles, évidemment, pour produire les biens. Et voilà, c'est ces services énergétiques sur lesquels, quand on se pose la question... Eh bien, on arrive assez facilement à hiérarchiser entre ceux qui sont les plus vitaux, comme pouvoir cuire des aliments, par exemple, ou se chauffer, et ceux qui sont superflus, extravagants, voire nuisibles. Notre expérience, c'est que tout le monde ne met pas forcément les différents usages dans les mêmes catégories, mais je pense que tout le monde peut être d'accord sur le fait que pouvoir dormir dans une pièce chauffée est infiniment plus important que prendre son SUV pour venir seul au centre de Paris ou prendre un avion pour aller passer un week-end à Prague.
Effectivement. Mmh. Et c'est là peut-être qu'on comprend l'importance de la question de la gouvernance, parce qu'effectivement, ces choix de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est futile et qu'est-ce qui est peut-être indécent, c'est effectivement des questions qu'on doit résoudre ensemble.
Oui, tout à fait. Alors, d'une manière générale, la transition énergétique dont on parle est un mouvement beaucoup plus décentralisé que la politique énergétique ne l'a été jusque-là, particulièrement en France où, avec le nucléaire, elle a été extrêmement centralisée et descendante. Quand on parle d'agir sur la mobilité du quotidien, quand on parle de rénover thermiquement les bâtiments, donc ça c'est plutôt de l'efficacité, quand on parle d'aller mobiliser des potentiels biogaz, photovoltaïques ou éoliens dans les territoires, on parle évidemment de solutions beaucoup plus diffuses, décentralisées, dont la mise en œuvre doit être beaucoup plus horizontale. Et donc, on voit déjà qu'il y a un enjeu de démocratisation, d'appropriation en tout cas, beaucoup plus large des enjeux, des problématiques et des solutions. Et donc, la démocratie, pour commencer, elle est d'abord un objectif parmi les objectifs de développement durable. Donc, elle n'est pas négociable de ce point de vue-là, mais c'est en plus, de façon évidente, un moyen de mettre en œuvre ces solutions. Et quand on regarde plus spécifiquement la question de la sobriété, c'est encore plus vrai. La démocratie est indispensable à la mise en œuvre de la sobriété parce que, en fait, la sobriété, c'est la définition qu'en donne maintenant le GIEC, hein, qui, pour la première fois dans son 6e rapport d'avancement, évoque le sujet. La sobriété, c'est un ensemble de pratiques, de politiques pour réduire la demande d'énergie et d'autres ressources, mais avec deux limites très importantes. La première, c'est celle collective des limites planétaires. Mais la deuxième, c'est celle à se donner collectivement de l'atteinte pour chacun de conditions de vie décentes. Et ces deux limites, en fait, on peut les poser conceptuellement et dire que la sobriété est un moyen d'inscrire notre système économique et notre modèle social entre ces deux limites et de penser la redistribution de l'accès aux ressources entre ces deux limites. Mais ça n'est pas les experts, ça n'est pas aux experts que revient de définir les limites. On peut, avec des scénarios comme Negawatt, éclairer ce que sont ces limites, mais c'est nécessairement un processus démocratique qui doit conduire à dire quelles sont les limites qu'on se donne collectivement. Quelles sont les conditions de vie décentes que l'on veut garantir pour chacun et comment, entre ces limites, on supporte plus ou moins d'inégalités et comment on hiérarchise effectivement les choix. Donc, la démocratie est indispensable à la mise en œuvre de la sobriété qui elle-même est clé pour la soutenabilité. Mais on peut renverser le propos et se dire que notre crise, enfin la crise que l'on traverse actuellement est aussi, et malheureusement, on y est confronté tous les jours, une crise démocratique, et se dire que la sobriété telle que je l'ai posée, c'est-à-dire un principe permettant d'interroger nos pratiques économiques, d'interroger le caractère suffisamment ou insuffisamment distributif du modèle social, et d'aller toucher aux valeurs qui fondent notre société, mais en fait, mettre la sobriété en démocratie est peut-être un moyen assez évident finalement de raviver la démocratie. Et donc, voilà, pour nous, il y a vraiment une continuité entre ces principes. Encore une fois, la démocratie est un objectif dans le cadre de la soutenabilité, mais c'est un moyen indispensable pour l'atteindre.
Mais est-ce que justement, alors si on revient un peu sur l'histoire, tout à l'heure tu disais que notre pays était très marqué par une histoire très centralisée, ça c'est une évidence, et très descendante. Qu'est-ce qui te semble vraiment le plus marquant dans cette histoire-là, et qu'est-ce qui te semble une habitude qu'on a culturellement qui va peut-être freiner notre chemin vers cette sobriété?
Alors le système énergétique français est évidemment structurée politiquement, techniquement, économiquement par la prédominance du nucléaire, alors, dont il faut toujours rappeler qu'il ne représente que moins de 20% de l'ensemble de l'énergie que l'on consomme, hein, puisque seul 25% ou un peu plus de cette énergie passe par l'électricité. Mais voilà, le nucléaire, incontestablement, domine et depuis longtemps notre imaginaire collectif sur l'énergie et le débat sur le sujet. Et ça amène plusieurs choses, mais essentiellement deux. La première, c'est le caractère extrêmement descendant et centralisé de ce système. On nous a habitués, hein, pendant plusieurs décennies, à ce que le nucléaire soit la garantie d'une électricité disponible pour tous, etc., et à ce que, finalement, l'accès à l'énergie passe juste par le fait d'actionner un interrupteur sans se poser aucune question sur ce qui se joue en amont. J'ai trouvé assez exemplaire de cette perte de contact avec ce que veut dire concrètement l'énergie, ce qu'on a observé l'été dernier, lorsqu'il a été question justement de mettre en œuvre des mesures de sobriété face à la crise énergétique qui se profilait. On se souvient du gouvernement qui a été obligé, dans une circulaire, de rappeler à tout le monde qu'il fallait fermer les portes d'un local commercial qu'on climatisait. Ça, je trouve que ça en dit vraiment long de notre perte de repère sur le lien entre la consommation, donc le service énergétique, et la ressource en amont. Le deuxième élément qui vient avec le nucléaire, et là ça renvoie à des fondements historiques, c'est que le nucléaire est culturellement indissociable de l'idée d'abondance. Il a été, en fait, le début du programme nucléaire mondial, hein, c'est le discours Atoms for Peace du président américain Eisenhower en 1956. C'est rigoureusement contemporain du premier article publié par King Hubert sur la notion de pic de pétrole. À l'époque, en fait, c'est la communauté scientifique américaine qui convainc Eisenhower de faire ce discours avec l'idée que le nucléaire, c'est la promesse de la poursuite de l'abondance au-delà de la fin des fossiles. Et on retrouve aujourd'hui dans le débat ce travers, quand le président Macron, dans son discours à Belfort en février 2022, dit « le pays a besoin de continuer à produire plus ». Donc on voit qu'on s'ancre dans le productivisme et qu'on n'est pas du tout dans une sobriété, dans une vision d'une sobriété structurelle. Le pays a besoin de continuer à produire plus, c'est la condition de maintien du modèle social. Et donc, la perspective qu'il dessine, c'est une électrification à outrance, basée sur les énergies renouvelables qui ne sont pas suffisantes, donc le nucléaire aussi, pour promettre à terme le maintien de l'abondance grâce à cette électricité décarbonée. Et cette image, cette vision qu'il véhicule à long terme, en fait, vient complètement heurter la nécessité à court terme pour répondre à l'urgence climatique, mais pour répondre aussi à la forme de crise énergétique dans laquelle nous nous trouvons, avec la baisse de production du parc nucléaire et le retard sur les renouvelables. En fait, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'activer, outre l'accélération des renouvelables, l'efficacité et la sobriété. Et on voit que le gouvernement, en fait, est pris dans une contradiction profonde, dont cette image culturelle du nucléaire est probablement le nœud.
D'accord, parce qu'il te semble qu'au cœur du nucléaire, il y a effectivement la création d'une énergie illimitée et en abondance, alors même quand même que c'est une usine, enfin en tout cas un dispositif technique qui utilise un carburant. Donc il y a un moment, moi il y a même quelque chose d'étonnant là-dedans.
Oui, ben pour nous, hein, je le disais, le nucléaire est intrinsèquement moins soutenable que les énergies renouvelables. Alors ça tient En partie, évidemment, aux risques qui lui sont spécifiques, hein, d'accidents, de transfert intergénérationnel de charges autour des déchets, et puis le risque qui est pour nous majeur de prolifération. Le fait que plus on développe du nucléaire dans le monde, plus on s'expose en fait au risque de détournement à des fins militaires, et donc au risque de conflit nucléaire qui est une menace de même ordre en fait que le changement climatique. Mais pour commencer par le commencement, le nucléaire effectivement épuise une ressource, l'uranium, comme le font les énergies fossiles. Cette dimension est gommée de façon d'autant plus bizarre que en France, par exemple, le nucléaire est associé à l'idée de sécurité énergétique, alors que l'intégralité de cet uranium est importée. Alors, une des raisons pour lesquelles c'est gommé, c'est que dans l'appareil culturel du nucléaire, il y a pratiquement depuis l'origine l'idée de progresser techniquement vers un cycle du combustible qui voilà, réutiliserait indéfiniment la ressource énergétique, hein, c'est la fameuse idée des surgénérateurs, et permettrait voilà, de s'affranchir en fait, de cette dépendance à l'uranium. Il faut se souvenir que dans les années 70, en 1976 je crois, en plein lancement du programme MESMER, le début du grand programme nucléaire tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, le CEA projette qu'il y aura 4000 réacteurs dans le monde en l'an 2000. Okay. La réalité a été de 400. D'accord ? Donc ils se sont trompés dans leur projection à 25 ans d'un facteur 10, c'est pas rien. Et parmi ces 4000 réacteurs, il devait y en avoir au moins 400 qui étaient des surgénérateurs. C'est l'époque où la France se lance dans Phoenix puis Super Phoenix. 400 en l'an 2000. Au total, à date, 11 réacteurs de type surgénérateur ont fonctionné dans le monde. Il n'y en a plus que 3 en service et aucun n'a jamais fonctionné industriellement en mode surgénérateur. Donc on voit l'écart entre le rêve et la réalité, mais ce rêve reste actif et voilà, fait partie, encore une fois, de l'appareil culturel que la filière nucléaire projette sans arrêt pour promettre toujours un nucléaire durable. Et ça s'ancre là aussi, historiquement, dans des réflexes extrêmement scientistes. C'est-à-dire le nucléaire, dans ses origines, est indissociable de cette période révolue où voilà, l'homme a cru trouver dans le progrès technique des conditions de dépassement indéfinies des limites planétaires dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Et on le ressent très fortement aujourd'hui dans la nature du débat sur la question nucléaire en France, avec le retour d'un courant extrêmement scientiste qui affirme la nécessité du nucléaire pour répondre aux enjeux climatiques, de sécurité énergétique, d'accès à l'énergie, etc., etc., qui affirme cette nécessité comme une vérité scientifique, qui dès lors est indiscutable, et tout discours critique, en fait, via cette posture, est disqualifié comme étant idéologique, nourri par, parfois, parce que ça s'accompagne de plus en plus, malheureusement, d'une dérive complotiste, les antinucléaires ou les experts critiques, comme je peux l'être, sont au service voilà, d'un complot international mené par l'Allemagne qui cherche à nuire...
C'est pas drôle.
Non, mais, je veux dire, juste pour illustrer ça, ouais. L'ancien président d'EDF, Henri Proglio, auditionné par une commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Donc auditionné par une commission d'enquête, ça veut dire répondant sous serment, affirme sans sourciller, depuis 20 ans, l'obsession de l'Allemagne et la destruction d'EDF. Voilà. Donc, voilà, il y a puisque le nucléaire, puisque le bien fondé du nucléaire est une vérité scientifique, tous ceux qui s'y opposent ne peuvent le faire que par irrationalité, délire ou mauvaises intentions. Et parmi ces mauvaises intentions, il y a aujourd'hui vraiment la montée d'un discours complotiste de ce type.
Et donc j'imagine bien sûr que face à cette vérité scientifique absolue, la question de la démocratie est secondaire, puisque si la science et la technique nous expliquent que c'est ce choix-là qu'il faut faire, pourquoi en passer par la démocratie ? Et ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est toujours entre les deux, c'est-à-dire qu'on a des débats pour discuter de ces questions-là, en même temps que le président Macron annonce les choix énergétiques. Donc comment toi, tu sens ça et que tu comprends ça ?
Oui, le nucléaire en général et le nucléaire français en particulier n'est jamais aussi peu démocratique que quand il prétend ancrer des décisions stratégiques et structurantes justement dans des principes démocratiques. Alors on en a énormément d'illustrations dans la période récente, hein, avec ce mouvement de relance du nucléaire et ces décisions du président de la République, mais peut-être... Si on regarde la manière dont ces décisions ont été annoncées et commencent à être mises en œuvre, on en a, je pense, d'assez bonnes illustrations. La première, c'est le discours de Belfort, donc en 2022. Alors, en se souvenant que le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu en 2017, en prenant l'engagement de respecter l'objectif fixé par la loi de transition énergétique de 2015, qui lui-même était la traduction d'un engagement de François Hollande en 2012, qui était de réduire la part du nucléaire à 50% de la production en 2025. Donc Emmanuel Macron est élu en faisant cette promesse. 2018, il repousse à 2035 l'échéance d'atteinte des 50%, et on pressent déjà qu'un objectif qui recule de 10 ans en moins de 5 ans n'est pas un objectif que l'exécutif cherche à tenir. Mais voilà, au fil de son mandat, on sent qu'il brûle de plus en plus d'envie d'annoncer de nouveaux réacteurs. Il se réfrène notamment parce qu'il s'engage, là aussi, à un moment en 2020-2021, à ne pas décider sur l'engagement de nouveaux réacteurs EPR2 avant la mise en service de l'EPR de Flamanville. Et puis cette mise en service n'intervenant toujours pas, vient en février 2022 un discours de président de la République qui est en fait déjà un discours de candidat où il annonce un programme énergétique et où il décide de relancer le programme nucléaire en annonçant la construction de 6 réacteurs, peut-être 14, et la prolongation, sauf problème majeur de sûreté, de tous les réacteurs existants à 60 ans. Et donc, d'un discours, il raye les objectifs de la loi de transition énergétique. Ce qui est frappant, c'est que depuis, le discours de Belfort est devenu la feuille de route du gouvernement. C'est elle qui a été soumise aux concertations ou aux pseudo-concertations, pour être plus exact, menées par le gouvernement sur l'évolution du mix énergétique, etc. Et puis, on a eu sur cette base le dépôt d'un dossier par EDF, l'engagement d'un débat public sous l'égide de la Commission nationale du débat public qui s'est tenu de fin octobre 2022 à fin février, je crois, 2023. Débat pendant lequel le gouvernement a déposé un projet de loi d'accélération du nucléaire pendant lequel, lors de l'examen de ce projet de loi, les parlementaires ont introduit des amendements modifiant les objectifs en matière nucléaire de la politique énergétique française et revenant sur les objectifs fixés, là encore, par la loi de 2015. Et c'est évidemment totalement contraire aux principes constitutionnels de droit de la population non seulement à l'accès à l'information, mais à la participation en matière d'objectifs ayant incontestablement des implications très fortes sur le plan environnemental, d'où une énorme tension pendant ce débat public qui a fini par conduire à ce que des opposants empêchent, de fait, la tenue d'un certain nombre de réunions. Le discours de Belfort, c'est aussi un discours où le président de la République justifie ce choix nucléaire par l'atteinte des objectifs climatiques, tout en disant aucun expert n'affirme sérieusement que le 100% renouvelable est possible pour notre pays.
Ah, il a dit ça.
Il dit ça dans son discours. Et là, il opère deux raccourcis, et dont l'un est un mensonge, hein, extrêmement problématique, évidemment, pour le débat. Le premier, c'est d'affirmer qu'aucun expert ne pense que le 100% renouvelable est possible. Alors, je ne parle pas là du scénario de Négawatt, hein, il en avait peut-être connaissance, mais je parle des rapports remis à l'automne 2021 par RTE, le gestionnaire du réseau de transport, par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, rapports sur des scénarios à 2050 qui contiennent tous les deux des scénarios 100% renouvelables et qui affirment tous les deux que ces scénarios sont réalistes, sont conformes aux objectifs climatiques, bien sûr, et de sécurité électrique, et sont, pour l'un, plus onéreux qu'un scénario avec nucléaire, c'est RTE, pour l'autre, moins onéreux, c'est l'ADEME, mais surtout dans des ordres de coûts qui, compte tenu de l'ensemble des facteurs et des incertitudes, en fait, sont très proches. Et donc, le président de la République dispose de rapports qui disent l'inverse de ce qu'il affirme. Ça, c'est évidemment insupportable sur le plan démocratique. Puis la deuxième chose, c'est que en réduisant tout l'enjeu à l'atteinte des objectifs climatiques à 2050, en fait, il occulte l'essentiel du problème qui est à quoi cette relance par des EPR engage la société française, pas seulement à 2050, bien sûr, mais pour les 60 ans d'exploitation de ces réacteurs, puisque 2050, c'est juste le moment où, dans les plans d'EDF, on finit de les construire. Donc ça nous amène au-delà de ce siècle, à quoi il faut ajouter un siècle pour gérer les déchets produits par ces réacteurs. Et donc là, on voit à quel point on s'engage dans quelque chose de vertigineux. Hein. Penser 2200 vu d'aujourd'hui, c'est comme penser aujourd'hui vu de 1840, avant même qu'on découvre la radioactivité. Enfin, c'est juste pour dire, et sur une période où on a eu, par exemple, trois conflits armés sur notre territoire. Voilà, j'entre pas là dans un débat, c'est juste pour illustrer à quel point on n'a pas le droit d'occulter cette dimension du choix sociétal que représente ce programme. Donc, on est dans un déni démocratique des termes du débat. Dernier point, je parlais de la mise en œuvre de ces décisions. On a eu, le 3 février, un conseil de politique nucléaire, qui est un organe créé par Nicolas Sarkozy, rassemblant les principaux responsables au sein du gouvernement ou au CEA ou dans l'industrie du nucléaire en France. Organe aussi peu transparent que possible, puisqu'on en sait juste, en termes de discussion, ce qui a été discuté via un communiqué. Ces discussions ont été basées sur un rapport qui, jusqu'à aujourd'hui, est tenu secret au titre du confidentiel défense. Et ces discussions, les décisions de ce Conseil de politique nucléaire ont visiblement, engagent opérationnellement la mise en œuvre du programme, etc. Et donc voilà les conditions dans lesquelles la France décide. Et tout dernier point pour mettre ça en perspective, puisque on critique souvent du côté du lobby nucléaire la situation en Allemagne. L'Allemagne a effectivement décidé de sortir du nucléaire en deux temps, d'abord en 1998, puis en 2011, après Fukushima, où Angela Merkel, qui dans un premier temps avait non pas remis en cause la sortie du nucléaire, mais plutôt appelé à la ralentir, après Fukushima, l'accélère. Et pour l'accélérer, elle a besoin d'une loi. Et pour rédiger cette loi, elle nomme une commission d'éthique avec une vingtaine d'experts et une trentaine de représentants de toutes les composantes de la société, économique, sociale, religieuse, associative, environnementale, etc. Et elle charge cette commission de trouver les conditions consensuelles de mise en œuvre de ce programme. Donc il y a je trouve que le contraste entre des conditions de décision aussi fermées et peu transparentes que possible en France et une volonté de majorité par consentement pour mettre en œuvre une autre orientation en Allemagne, voilà, disent beaucoup du rapport que le nucléaire entretient avec la question démocratique.
Je me disais que là, par exemple, tu abordais peut-être un point assez central. Tu disais confidentiel défense. Tu as dit confidentiel défense. Et là, moi, pour moi, en fait, je sens quelque part la patte militaire du nucléaire. Et que, en fait, ce que tu décris du chemin de Macron sur le nucléaire, en fait, bah, est là depuis le début. Mais parce qu'en fait, intrinsèquement, le nucléaire est marqué par le militaire et que le militaire, quelque part, ça regarde pas la population, quoi. Ce qui serait déjà un débat en soi, mais j'ai l'impression que ça marque fortement tout ce qui se passe.
Oui, mais c'est profondément vrai. Je pense que la dimension militaire est en réalité la principale motivation de cette décision de relance du nucléaire. L'analyse de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, on peut évidemment rappeler que, historiquement, le nucléaire civil français vient du nucléaire militaire et que cette articulation a toujours été présente et a toujours pesé, en fait, dans les orientations de la France dans ce domaine et a toujours pesé sur les conditions du débat. Je me souviens de 2005-2006, le débat public sur le projet d'EPR de Flamanville, dans lequel la question de la tenue de l'EPR à une chute d'avion, c'était évidemment présent dans tous les esprits, puisque on était quelques années après le 11 septembre. Ce sujet avait évidemment été mis à l'agenda du débat public par les parties prenantes. Il s'est heurté au secret défense et ce point d'achoppement a été vraiment le point de départ d'une crise, là aussi, pour ce débat public. Alors, ça a aussi permis de commencer un travail qui se poursuit encore et qui avance très peu parmi les institutions sur justement les limites que l'on peut donner au secret défense en matière nucléaire. Mais il est là, il est présent en permanence et il est parfois très utile à l'industrie pour cacher un certain nombre de choses, notamment toutes les dérives et la perte de maîtrise du côté de ce que j'appelais tout à l'heure le cycle du combustible, qui n'en est pas un, mais qui conduit à l'accumulation de pas mal de matières qui sont des matières nucléaires civiles et potentiellement aussi militaires. Pour revenir à la situation actuelle, en 2018, un rapport apparaît dans la presse via un article des Échos. Il est présenté comme un rapport commandé par les ministres de l'écologie et de l'économie, donc Bruno Le Maire déjà à l'époque et Nicolas Hulot, et portant sur les conséquences éventuelles pour la capacité de la France à construire des réacteurs civils ou des réacteurs militaires, c'est-à-dire des réacteurs de propulsion des sous-marins ou des porte-avions. Les conséquences donc de rester plusieurs années sans construire de réacteur. C'est un peu étrange parce que puisque ça touche aux militaires, la commande aurait dû associer le ministre de la Défense. Donc c'est déjà dès le départ un objet assez bizarre. Les rapporteurs sont Descata et Collet-Billon qui sortent à l'époque de mandat pour l'un d'administrateur général du CEA et pour l'autre de directeur général de l'armement. Descata est au même moment conseiller spécial du président d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Et la conclusion de ces deux rapporteurs est que il faut absolument, pour maintenir les compétences de construction de réacteurs civils et militaires dans la durée, engager un programme de 6 réacteurs EPR. Voilà. En décembre 2020, Emmanuel Macron va faire un discours au Creusot, à l'usine Creusot-Forge, frappé par le scandale de milliers de falsifications de dossiers de fabrication des composants qu'elle produit pour les réacteurs civils et militaires. Et il vient, c'est à l'époque où il est encore engagé à ne pas annoncer de nouveaux réacteurs civils tant que Flamanville n'a pas démarré, mais il vient quand même avec un carnet de commandes, puisqu'il dit « je lance un deuxième porte-avions ». Et lors de ce discours, point important, est qu'il dit textuellement « nucléaire civil, nucléaire militaire, l'un ne va pas sans l'autre ». Voilà. Et donc, ma conviction est que, d'autant plus dans le contexte de tensions internationales que l'on connaît et qui ravive, même si là aussi ça devrait faire l'objet d'une discussion en tant que telle, le réflexe de la dissuasion nucléaire, eh bien, ce programme de 6 EPR2 est en fait un programme voulu et piloté avant tout par l'appareil nucléaire militaire. J'en veux d'ailleurs pour preuve que Macron a créé une délégation interministérielle au nouveau nucléaire et qu'il a confié cette délégation à un ingénieur général de l'armement. Et donc, voilà, cette dimension militaire, elle est aujourd'hui première et c'est un vrai problème démocratique. Si on n'est pas capable de dissocier la question de notre trajectoire énergétique, de la question de notre politique de défense, on est évidemment piégé. C'est pour ça que, quand on a publié en 2021 le scénario Négawatt, sur la partie qui concerne la maîtrise de la trajectoire de descente nucléaire, on a commencé par affirmer la nécessité de séparer fonctionnellement et institutionnellement le nucléaire civil et le nucléaire militaire pour que des décisions puissent être prises démocratiquement sur l'un et l'autre de ces volets de façon distincte. C'est aujourd'hui vraiment une condition indispensable pour retrouver un tant soit peu de dimension démocratique dans les décisions qu'on nous impose.
Alors j'aimerais clôturer cette question sur peut-être revenir au début et faire un cycle nous-mêmes. Peut-être que tu peux me partager des exemples que tu as de chemin local de transition énergétique qui se passe justement avec une gouvernance autre et qui montre que en fait ces sujets-là, les populations peuvent s'en emparer, peuvent réfléchir ensemble et peuvent faire des choix auxquels on ne s'attendrait pas au départ quand on a cette vision technocentrée et centralisée qu'on a habituellement dans la tête. Quoi.
Alors, on a malheureusement pas encore beaucoup d'exemples de transition énergétique fondée sur les principes que Négawatt met en avant et étant arrivé à son terme, hein, parce que tout ça est nouveau et qu'il faut du temps, mais on peut quand même trouver quelques exemples. Il y a d'abord tout le mouvement de ce qu'on appelle les territoires à énergie positive en France, alors qui sont souvent des territoires ruraux, parce que c'est là qu'il y a en fait un potentiel de développement et de projet de territoire basé sur la mobilisation des énergies renouvelables. Mais on voit que, dans le contexte français, lorsque on pose à l'échelle territoriale, les enjeux d'une reprise en main du destin énergétique mettant en œuvre des actions de maîtrise de la consommation, donc de sobriété, d'efficacité, la rénovation des bâtiments par exemple, l'évolution des schémas de mobilité, et mobilisant les énergies renouvelables dans des conditions qui où ce n'est pas de grands groupes qui viennent juste louer les terrains et extraire la valeur, mais où une partie de la valeur est redistribuée dans les territoires, et ben ça fait complètement sens. Et c'est mobilisateur de politiques ambitieuses et innovantes. Donc on l'observe d'ores et déjà dans des conditions comme celle-là en France. On l'a beaucoup observé dans des pays voisins qui sont beaucoup plus en avance que nous sur les énergies renouvelables. La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir raté son objectif en matière d'énergie renouvelable en 2020. Les pays qui sont les plus avancés, l'Allemagne, le Danemark par exemple, sont des pays où une grande partie du développement des énergies renouvelables s'est fondée sur des coopératives, des compagnies portées par les collectivités, sur une part d'investissement citoyen. Et donc on voit là aussi comment, quand on donne prise aux acteurs locaux sur le développement de ces projets, eh bien ça se fait beaucoup plus facilement et de façon diffuse. Puis peut-être un autre exemple qu'on peut donner qui illustre à quel point les citoyens en fait sont capables de beaucoup plus de maturité que notre élite politique sur le sujet, c'est la Convention citoyenne pour le climat, mais qui est un exemple parmi d'autres de la manière dont placer en situation délibérative des panels de citoyens en fait montent très vite en compétences d'intérêt général et vont assez naturellement, dès lors qu'ils se sont appropriés les constats, les limites planétaires, les inégalités, la nécessité de réparer tout ça, vont vers des solutions qui intègrent la sobriété, qui intègrent l'efficacité, l'obligation par exemple de rénovation des bâtiments, qui intègre la mobilisation des énergies renouvelables. Et c'est frappant par exemple de voir que la Convention citoyenne pour le climat, alors que son mandat ne devait pas aller sur la production d'énergie, est allé sur la production renouvelable, mais n'a pas jugé utile d'aller sur le sujet de la production nucléaire. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On travaille dans le cadre notamment d'un projet de scénario européen qui s'appelle CLEVER, pour Collaborative Low Energy Vision for the European Region, donc une vision collaborative basée sur la sobriété pour l'Europe. On a travaillé avec différents partenaires, et notamment des partenaires en Allemagne qui sont engagés dans un projet de recherche qui s'appelle Energy Sufficiency, où ils ont mener une étude assez exhaustive justement du contenu de différents processus dans les différents pays européens de type convention citoyenne, et du contenu des politiques nationales telles qu'elles sont déclarées dans les engagements que prennent les pays vis-à-vis de l'Union européenne ou vis-à-vis de la Convention internationale pour le climat. Et le résultat est frappant, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des mesures qui relèvent de la sobriété dans les recommandations des conventions citoyennes, contre 10 à 20% au plus dans les politiques nationales. Et donc, voilà, encore une fois, on a vraiment aujourd'hui de plus en plus d'exemples qui montrent que soit dans la mise en œuvre concrète à l'échelle locale, soit dans les recommandations que peuvent faire les citoyens sur les politiques nationales, eh bien, cette appropriation démocratique des enjeux et des solutions qui en fait va vers la sobriété, l'efficacité, les renouvelables et nous détourne du nucléaire, elle se fait quoi qu'on dise et qu'en pense notre élite qui sur ce plan est assez largement restée enfermée au XXe siècle.
Ouais, au milieu du XXe siècle même. écoute, merci beaucoup Yves, j'espère que ça vous aura nourri et fait réfléchir sur justement le cadre dans lequel on évolue en France, qui est quand même un cadre qui me semble assez particulier. Merci Yves pour ton temps, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.
Merci beaucoup de ce temps d'échange, voilà, qui, j'espère effectivement, vous aura nourri.
Au revoir.
Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack ALS et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard.